Alors on va aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, je souhaiterais que l'on puisse lire, relire et revoir le Notre Père. Non pas comme une prière, parce que ça n'est une, mais on va le regarder autrement. Un petit peu comme un recalage dans notre vie, de certaines choses. Hier, en relisant cette prière, c'est apparu comme ça, puis j'ai noté de cette manière-là, que parfois, nous nous retrouvons dans des problématiques, quelles qu'elles soient, parce que dans notre vie, il y a des choses qui ont bougé. C'est un petit peu comme les appareils sophistiqués, tout doit bien être calé pour que ça fonctionne bien. Dans la mesure où il y a du décalage, où il y a de la désorganisation, il est nécessaire qu'il y ait un recalibrage à un moment donné. Et je voudrais que l'on regarde le Notre Père de cette manière-là, un nouveau réglage dans notre vie, un re-réglage, un recalage des choses fondamentales que Dieu a établies dans notre vie. Quand elles sont bien calées, ça fonctionne, notre vie s'épanouit. Quand il y a du décalage, même s'il est petit le décalage, ça ne fonctionne pas. Je vous renvoie à la, ne serait-ce qu'au véhicule avec la courroie de distribution, quand elle a sauté d'un cran, deux ou trois crans, le moteur qui fonctionnait à merveille ne fonctionne plus. Et pourtant, c'est juste une question de calage, il faut caler cet organe-là. Eh bien, le Notre Père, je souhaiterais qu'on le voit comme des éléments que le Seigneur a donnés et qui nous permettent de caler notre vie dans le bon sens, la bonne manière, de telle manière que ça fonctionne. Et que non seulement nous évitions les problèmes, mais ensuite que nous nous épanouissions. Alors on va dans Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez recaler votre vie. Priez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et la première des choses qui apparaît, que le Seigneur souligne, c'est notre relation avec Dieu. Elle était d'une certaine manière ou elle n'était pas du tout, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne ces indications-là. Et après les avoir entendues, ces indications-là, il ne faut pas rester simplement avec une prière modèle que le Seigneur nous aurait donnée et qui va nous amener à mieux prier que ce qu'on priait avant. Ce n'est pas qu'une prière modèle. C'est beaucoup plus sérieux que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous savez, le Seigneur, maintenant qu'on le connaît un petit peu plus, quand il parle courtement, mais c'est très profond. C'est pour cela qu'on a toujours été étonné quand le Seigneur a été interrogé, il a répondu courtement, alors ça en a déstabilisé certains, et dans certaines Bibles, c'est imprimé en rouge les paroles du Seigneur, et quand vous tournez les évangiles, vous voyez que finalement, il y a beaucoup de noir, il y a peu de rouge par endroit, parce que quand il a parlé, il parle tellement bien, et c'est tellement précis et complet, que ce n'est pas la peine d'être long d'en rajouter. Il faut aller juste en profondeur. Et le Notre Père, c'est une porte qui s'ouvre, qui nous amène dans les profondeurs. Dans les profondeurs de Dieu, de la relation avec Dieu. Certains se limitent à ce qui est écrit sur la porte et à réciter, à répéter, et ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire là, à réciter, à répéter le Notre Père. C'est bien, parce que comme c'est excellent, on se fait du bien à réciter, à répéter le Notre Père. Mais ce qu'il faudrait et qui est mieux, c'est de pousser la porte sur laquelle est écrit notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton œuvre, que ta volonté soit faite, qu'on ouvre la porte et que l'on rentre dans la relation avec Dieu. Notre Père qui es aux cieux, c'est une question de relation avec Dieu. On ne prie pas Dieu, on prie notre Père. Tout le monde prie Dieu, beaucoup croient en Dieu, mais nous sommes appelés à connaître notre Père et à avoir une relation avec lui. Et moi, je l'ai écrit de cette manière-là, la méconnaissance de notre Père, l'absence de notre Père, c'est terrible dans la vie de quelqu'un. Et on peut faire une relation avec la méconnaissance de son propre Père ou l'absence de son propre Père. Mais c'est ce que nous venons de lire là est plus terrible encore que ce que nous avons, que ce que quelques-uns ont pu vivre sur la terre. Alors on va prendre un exemple, parce qu'il faut que tout soit très pratique. Dans Luc chapitre 15 et verset 11, on connaît tous ce récit, la parabole du fils prodigue. Il s'adresse à son père. Alors on va le voir. Dans Luc chapitre 15. D'une certaine manière, il connaît son père puisqu'il s'adresse à lui. Mais quand on lit le récit, on prend conscience que ce qu'il connaît est infime comparé à ce qu'il a à découvrir. La relation que nous avons eue avec notre propre père, je crois qu'on regrette toujours qu'elle n'ait pas été plus loin que ça, plus profonde que ça. Alors il y a beaucoup de paramètres hein, qui font que ça n'a pas été plus loin que ça, ça n'a pas été plus profond que ça. Peut-être que en amont, le contact, la relation de notre père avec nous-mêmes n'a pas été plus profonde que ce qu'on aurait souhaité, n'a pas été plus loin que ce qu'on aurait attendu. Sans vouloir juger, mais il faut, à un moment donné, il faut être un petit peu factuel, il faut faire un constat. Bien, peut-être qu'on peut regretter qu'il n'en ait pas fait plus, qu'il n'en ait pas donné plus. Et du coup, ça nous a peut-être, nous, dans l'autre sens, réduit, limité dans le fait, moi j'aurais aimé en faire plus aussi, mais je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. Bref, quelque part, dans une relation, il y a un va-et-vient. Alors on laisse l'exemple d'ici-bas, parce qu'il sera toujours perfectible, forcément, pour prendre l'exemple avec Dieu. Lui, il est notre Père et il est parfait. Alors c'est à nous de laisser d'abord le vient, pour qu'il y ait ensuite le retour. Il faut que nous comprenions les choses qui viennent de lui. Et pour les comprendre, il faut méditer la parole qu'il nous a donnée. Il nous a écrit. Je ne sais pas si votre père vous a laissé un écrit. Moi non. Mais s'il m'avait laissé un écrit, je vous assure que je l'aurais tout le temps sur moi. Voilà. Et c'est quelque chose d'important d'avoir un écrit de son père, qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus. Dieu nous a donné un écrit. Mais comme sa parole est vivante, cet écrit, au bout d'un moment, va se transformer dans une vraie communion, dans une vraie relation, et il n'y aura plus qu'entre lui et nous une distance géographique, hein, si on peut appeler ça comme ça, nous sommes sur la terre, il est au ciel. Mais mis à part cette distance géographique un petit peu physique, dans le sens de la pensée, voilà, il peut nous donner sa pensée. Dans le sens de la parole, il nous communique sa parole. Dans le sens de l'esprit, il nous donne de son esprit, à tel point que nous allons vraiment devenir ses enfants, alors que nous ne l'étions pas. Et le fils, là, en l'occurrence, il a une relation avec son père, mais elle est limitée. Alors, qui l'a limitée, je ne sais pas. Est-ce que c'est le père? Peut-être. Est-ce que c'est le fils? Probablement. Dans tous les cas, quand il s'adresse à lui, il est dit ceci, verset 11 du chapitre 15, « Un homme dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Alors, est-ce que c'est le résumé de leur relation? Peut-être. Peut-être que leur relation à ce point-là était résumée à ça, « Mon père, donne-moi. » Mais ça souligne quand même le fait qu'il ne s'adressait pas à n'importe qui, il s'adressait à son père. Alors on va laisser l'exemple de ce fils et de ce père, parce que quand vous lisez le récit, on réalise que lui ne connaissait pas particulièrement bien en profondeur son père, mais le fils qui restait à la maison, guère plus. Dans un autre domaine, il avait besoin de découvrir son père. Et ce qui va faire la différence à un moment donné chez le fils prodigue, c'est qu'il va se rappeler que dans la maison de son père, même les serviteurs sont traités différemment que ce que lui est en train de vivre. Et il va revenir vers son père et il va s'adresser à son père en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Et quand il aura rétabli une relation équilibrée avec son père, il va retrouver une position de fils tel que dans le cœur du Père, il l'a toujours eu de toute façon. Voilà. Alors, mon Père, donne-moi. Et quand on s'adresse à Dieu de cette manière-là, d'ailleurs à n'importe qui, on réduit la relation. Mon Père, donne-moi. Si vous vous adressez à quelqu'un, et particulièrement à votre Père, uniquement pour demander quelque chose, vous réduisez la relation. Vous limitez tout. Et à partir de là, ça va devenir difficile à vivre pour tout le monde. Le Père, parce que je ne sais pas si vous avez un fils comme ça qui s'adresse à vous uniquement quand il a besoin d'argent ou d'autre chose, ça fait mal. Parce que vous seriez prêt à donner beaucoup plus quelque part, l'argent, ça devient accessoire. Ça n'a strictement plus aucune importance. C'est sûr que quand on en a, c'est plus facile que quand on n'en a pas. Mais dans ce type-là de relation, que ce soit 20 euros qui soit demandé ou 2000 euros finalement, pour celui qui peut donner 20 euros, il est blessé parce que son fils ne s'adresse à lui que pour 20 euros. Et pour celui qui peut donner 2000 parce qu'il a la possibilité de le faire, il est tout autant blessé. Même s'il a plus de capacité financièrement parlant, il est tout autant blessé au plus profond de lui-même. Notre relation avec Dieu, si elle s'est limitée malheureusement à « donne-moi », et bien souvent nous nous sommes inspirés du Notre Père pour mieux demander, il faut être honnête. Qui d'entre nous, ne levez pas la main, n'a pas utilisé le Notre Père pour mieux demander? C'est-à-dire pour mieux avoir à la clé, pour avoir une réponse meilleure. Parce qu'on a quand même lu quelque part, l'épître de Jacques, que parfois on demande mal. Ah oui, alors si quand je demande mal, je n'ai pas, Seigneur, comment bien demander? Je vais m'inspirer du Notre Père. Alors je le dis un petit peu sous forme ironique, parce qu'on y est tous passés. On s'est inspiré du Notre Père pour mieux demander. On n'a pas réalisé que demander, c'est une chose, mais on s'adresse d'abord à notre Père. À notre Père. Et il est tellement bon, et il est tellement grand, que quand bien même je demanderai de manière mal formulée, il va me donner au-delà. Parce que c'est son cœur de Père qui parle et qui répond. Mais moi, dans ma démarche, il faut que je réalise que quand je prie, je ne m'adresse pas à Dieu, je m'adresse à mon Père. Et mon Père m'oblige à prendre la mesure de ce qu'il y a dans son cœur. Un étranger, c'est un étranger, mais mon Père, c'est mon Père. Il y a les mêmes émotions, il y a les mêmes sentiments à l'intérieur qu'il veut me donner. Donc, je termine sur ce point-là. Frères et sœurs, quand nous prions, ne commettons pas l'erreur de recopier le Notre Père pour mieux demander. Parce que ce qui est en premier, c'est la position. Notre Père. Et qui dit à Dieu ou à quelqu'un, mon Père, se positionne comme enfant. Forcément. Nous ne l'étions pas, mais il nous a appelés. Et il nous appelle à devenir ses enfants. Alors quand nous nous adressons à lui, ne nous trompons pas. Il n'est pas Dieu seulement. Il l'est. Mais pour nous, il est notre Père. Il est mon Père. Et quand on le lira plus loin dans les Écritures, dites papa. Et quand on s'adresse à quelqu'un en lui disant « Papa », on est allé au-delà du positionnement père-enfant. Là, on est cœur à cœur, papa, mon fils. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lui, il va dire « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Quelle erreur de limiter ou de ramener sa relation avec son père à lui-même. « Donne-moi. » Pour lui, il dit « Donne-moi », et le Père a dû sentir « Tu m'arraches le ventre, tu m'arraches les tripes, tu m'arraches le cœur. » Les finances, je n'en ai que faire. La preuve, c'est que quand il revient, il lui redonne tout. Cet homme était suffisamment à l'aise pour n'avoir aucun souci apparemment à ce niveau-là. Sa relation avec son fils, il l'aurait voulu tellement autrement. Et on va, pendant un instant, changer la position quand nous prions. Nous sommes le Père. Nous sommes le Père, et quelqu'un s'adresse à nous. Et si quelqu'un s'adresse à nous simplement en disant « Mais donne-moi la part qui doit me revenir », quelque part, il a raison, parce que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous, afin de nous les donner, donc nous ne nous trompons pas quand nous venons les lui demander. Dans la mesure où il les a prévues, et où nous ne nous trompons pas quand nous venons les demander, attention, l'erreur est ailleurs. C'est dans la relation que nous allons établir avec lui. Dans la formulation, on ne sera peut-être pas faux, mais dans la relation, on risque d'être complètement décalé. Et le Père, comme nous, pourrait dire, le voilà encore une fois, qui vient uniquement pour demander. Alors, comme il est le Père, il va répondre. Un Père tel que lui répond. Mais ce n'est pas parce qu'il répond que nous sommes forcément dans une position juste. On va comparer avec Jésus qui s'adresse au Père dans Jean 17. Jean 17, intitulé « La prière sacerdotale », mais on va faire ressortir les quelques paroles lorsque Jésus, s'adressant au Père, l'appelle ainsi. Donc on va au verset 5. « Et maintenant, Jean 17, 5, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et dans ma prière, ce serait tellement bon que je prenne la mesure qu'il a pensé à moi avant que le monde soit. C'est d'ailleurs pour moi, pour vous qu'il a créé le monde, pour que nous y soyons, que nous y recevions la vie et que nous nous y épanouissions. Alors aujourd'hui, quand on vient lui dire « Seigneur, bénis-moi », mais il pourrait nous dire « Mais ça, c'est ce que j'ai prévu depuis toujours, ce que j'ai perdu en route. » C'est un fils, c'est une fille. La bénédiction, elle est toujours prévue, elle est en attente, elle se renouvelle chaque matin. Mais ce que j'ai perdu, c'est un fils et une fille. Et j'ai donné ce que j'avais de plus cher pour venir retrouver un fils et une fille. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et retournons ou retrouvons cette relation avec Dieu en tant que père et fils. On va au verset 11. Il est dit ceci. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et c'est l'attente de Dieu que nous soyons unis à lui. Pas simplement de passage. Quand nous prions, quand nous lisons sa parole, quand nous recevons un don de l'esprit et que nous apportons un don spirituel, quelque part entre Dieu et nous, il y a une connexion qui pourrait malheureusement être momentanée. Et après, c'est interruption du son et de l'image. Voilà. Qu'il y ait une communion qui soit un comme nous, Père. Et ça, c'est ce que le Seigneur a voulu depuis toujours, qu'il soit un comme nous. Oserions-nous aller jusque-là? De toute façon, Dieu l'attend. Oserions-nous aller jusque-là, jusqu'à être en communion avec le Père? Au bout d'un moment, ça devient prétentieux. Nous pourrions dire à notre niveau, le Père et moi, nous sommes un. Vous savez ce que ça a valu au Seigneur de le dire? Mais entre le Père et nous, de toute façon, soit nous sommes deux, et il n'y a pas de communion, ou alors il y a des communions momentanées, et après c'est interruption du son et de l'image et de la communion, donc soit nous pouvons arriver à la communion avec le Père. Comme le Seigneur est en communion avec le Père, et il le dit, afin qu'il soit un comme nous. Et ce n'est pas forcément un entre eux, c'est un avec toi. Verset 21. Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et nous sommes appelés à cette fusion, à cette unité, jusqu'à devenir une entité. Et le Seigneur a ouvert la voie, il a tracé la route. Il ne nous appelle pas serviteurs, mais amis. Donc, déjà, la relation d'amitié, c'est une relation de proximité qui souligne un vrai partage de bien des choses, de bien des valeurs et de bien des sentiments. Tu es en moi comme je suis en toi. Et mes frères et sœurs, comment vous voulez appeler la relation avec nous dans la mesure où le Seigneur l'a dit, nous viendrons et nous ferons notre demeure. Et il parlait de l'Esprit Saint que nous devrions recevoir. À la mesure où nous sommes une habitation de Dieu en esprit, pour reprendre le texte, eh bien, je ne vois pas comment on peut être une habitation de Dieu sans qu'il y ait une communion. Dieu ne fait pas que passer dans une maison, il s'installe, comme nous. Il fait sa demeure, il s'installe à nous. Et quand nous nous installons chez nous, il y a une communion, nous nous ressemblons, notre maison nous ressemble et vice-versa. Eh bien, dans notre vie où Dieu vient s'installer, il va y avoir une ressemblance entre lui et nous. Il va s'adapter à nous, heureusement, mais nous aussi, nous allons nous adapter à lui. Il y a des choses qui vont changer dans notre vie, parce que ce n'est pas possible. Dieu est là. Je fais juste une petite parenthèse. Vendredi matin, on repartait de bonne heure vers l'aéroport pour prendre le vol, et deux doubles voies, une dans un sens, une dans l'autre. Et tous les matins, à cause du décalage horaire, à 6 heures du matin, c'est déjà bon rythme, les bouchons commencent. Et donc, tous les matins, bouchons, une heure de bouchons quasiment. Et vous ne pouvez pas l'éviter, il y a trop de monde sur une petite île. Bref, de l'autre côté, rien. Je me suis dit, tiens, c'est pas normal. Et puis, un motard, deux motards, trois motards, des gyrophares. On a compris, la ministre de l'Outre-mer est passée par là. forcément, puisqu'il y a eu cet accident malheureux à cause du requin. Voilà. Et c'est là où on réalise une chose, c'est que quand on reçoit quelqu'un de qualité ou de fonction élevée, on adapte tout, tant pis pour les bouchons, il y en aura un peu plus ce matin-là. Mais on laisse le passage libre à quelqu'un de qualité. Mais dans notre vie, c'est non seulement Dieu qui est, mais ce Dieu qui est devenu notre Père. Si à partir de là, il n'y a rien qui change, je me dis qu'on n'a peut-être pas bien compris la chose. D'ailleurs, on n'a peut-être pas compris la chose du tout. Quelqu'un qui continuerait de vivre une vie comme il l'a vécue autrefois sans Dieu, maintenant en disant « je connais Dieu », je me dis il y a un décalage là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même Dieu a modifié sa maison pour nous. Puisqu'il est en train de nous préparer une place. Et il a grandi. Notre maison ne peut qu'être modifiée et complètement transformée. On va au verset 24. Et il est dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà. » Et que, d'une certaine manière, nous sommes appelés à nouer ou à renouer avec Dieu une relation qui remonte avant la fondation du monde. Vous savez, quand quelque chose est coupé et que vous refaites la connexion, d'abord arrive tout ce qui est en attente, avant qu'arrivent les autres choses. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé au niveau informatique, j'ai fait une manœuvre intelligente, et donc tout s'est bloqué, ensuite ça s'est accumulé de l'autre côté, puis quand j'ai refait le paramétrage, oh c'était l'avalanche. Je ne sais pas si vous arrivez avec les mails, vous recevez, c'est là que vous réalisez que quelque part on vous connaît. On vous en envoie des messages, un par-ci, un par-là, mais quand ils arrivent tous à l'enchaîner, ça fait beaucoup. Eh bien, quand nous rétablissons notre relation avec Dieu, on n'a pas fini d'en recevoir des messages et des paroles et des choses que Dieu attend depuis toujours de pouvoir établir avec nous. Alors, c'est à nous de prendre le temps maintenant de répondre et de consulter ces messages. Je vais rester juste avec cet exemple-là, qui viennent de loin, qui viennent de longtemps et dont nous n'avions plus connaissance parce que la relation était coupée, le paramétrage n'était plus bon. Mais maintenant qu'elle s'est établie, on va pouvoir prendre connaissance de tout ce que Dieu avait prévu depuis toujours, de tout ce que nous avons raté aussi, parce qu'on va réaliser, mais ce message, je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire, je n'ai pas compris quand tu m'as parlé. Pourtant, il y a la date, il y a l'heure, il y a le jour, je me rappelle de la circonstance, et je n'ai pas compris quand tu m'as parlé. Hier matin, j'ouvre juste et referme une parenthèse, j'avais besoin que Dieu me parle. Là, je vous avoue que c'était clair et net. Il n'y avait pas d'ambiguïté possible sur la question qui me concernait. Comme quoi, quand on demande à Dieu quelque chose, quand il répond, c'est clair et c'est net. À partir de là, soit on en tient compte, soit on n'en tient pas compte. Et puis on termine avec le verset 25 de Jean 17, pardon. Excusez-moi, je crois que j'ai encore un peu de décalage. Jean 17, 25, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Père juste, je t'ai connu. » Qui ce matin connaît Dieu? Je crois qu'on peut tous le dire, on le connaît mieux qu'autrefois. Mais la vraie question, qui connaît son Père? Et là, il y a peut-être encore beaucoup de choses à découvrir et à rétablir dans une relation avec celui qui se présente à nous comme notre Père, qui est aux cieux en l'occurrence. Alors je vais avancer plus vite. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié pose un cadre dans notre vie. Mon Père est quelqu'un d'extraordinaire. Je dois l'être aussi. Mon Père est saint. Je dois le devenir. Jésus va rencontrer la Samaritaine. On pourrait dire beaucoup de choses sur la vie de cette femme, sauf que tout ce que nous allons dire est en décalé par rapport à ce que le Seigneur lui a dit. On la connaît, elle est connue. C'est pour ça qu'elle vient chercher de l'eau quand il n'y a plus personne pour éviter les commentaires. Et Jésus lui dit « Appelle ton mari et viens ici. » Et elle va répondre. Et ensuite, elle va parler de l'adoration. Et le Seigneur va lui dire « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Appelle ton mari et viens ici. » Ce que Dieu veut, c'est que ma famille dans son entité soit sauvée. De quelle manière est-ce que je construis ma famille? Il est le Père, il ne faut pas l'oublier. Qui dit Père dit famille. Dieu peut être seul. Dans certaines croyances, Dieu est seul. Sauf que ce Dieu qui s'est fait connaître à nous, il n'est pas seul. Il a un Fils. Père, Fils et Esprit. Il est à l'origine, il est à la base de la famille. Et la famille selon Dieu, selon le plan de Dieu. Et cette femme s'approche de Jésus et lui dit, appelle ton mari, viens ici. Alors elle va répondre, ma vie de famille ici-bas, mais je sais, elle a explosé. Le Seigneur ne fait aucun commentaire, parce que quand quelqu'un a explosé en vol, comme on dit, c'est pas la peine d'en rajouter, vous allez faire que de la miette, déjà qu'il y a des petits morceaux. Non, appelle ton mari, viens ici. Dans la situation dans laquelle tu es, approche-toi de lui, afin que tout soit recalé, que tout soit rétabli. Mais Seigneur, comment dois-je faire? Va être dépassé. Papa, comment dois-je faire dans ma situation? C'est plus Dieu, c'est plus le Seigneur, c'est mon Père. Appelle ton mari, viens ici. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et dans ma vie, il doit y avoir cette dimension de vérité à un moment donné, à l'égard de la parole de Dieu. Que ton règne vienne. C'est quatre mots pour tout caler. Que ton règne vienne. À partir de là, est-ce que je suis prêt à entrer dans le royaume de Dieu s'il devait s'établir dans l'instant qui suit? Ou est-ce que je ne suis pas prêt? Que ton règne vienne permet de tout caler dans ma vie. Dans quelle perspective est-ce que j'avance? Est-ce que j'évolue? Est-ce que ce sont des perspectives simplement terrestres, sans vouloir les mépriser? C'est une réalité, on y est. Mais nous sommes dans une réalité qui est surpassée par une autre réalité, qui est le royaume de Dieu. Et si je me suis épanoui dans la première, le Seigneur m'appelle à entrer dans la seconde, parce que la première va s'arrêter, la seconde est appelée à demeurer pour l'éternité. Que ton règne vienne. Et quand je m'adresse à Dieu de cette manière-là, je recale tout dans ma vie. Et toutes les décisions que je vais prendre désormais, elles seront prises dans une dimension de continuité, d'éternité, à tel point que quand celles d'aujourd'hui s'arrêteront, je ne serai pas démuni, parce que celles du royaume de Dieu continueront. Et nous pouvons amener avec nous des trésors. Nous pouvons laisser des choses de valeur, mais nous pouvons amener avec nous des trésors. Et ça, ça nous appartient. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner, parce qu'il est notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, je l'ai noté de cette manière-là. La méconnaissance de la volonté du Père, pas de Dieu seulement, mais la méconnaissance de la volonté du Père, ce sont des écueils majeurs dans notre vie. Alors, je ne vais pas vous inviter à relire les 10 commandements. Je vous redonne le texte d'Exode chapitre 20. Mais ce qui me gêne, c'est que c'est intitulé les 10 commandements. Ce sont 10 règles de vie, avant d'être des commandements. Et si nous respections ce que Dieu a établi, et qui, par une intelligence au-delà de la nôtre, tient sur les 10 doigts de la main, nous pouvons nous en rappeler facilement, si nous les respections, la prière du Notre Père aurait une autre connotation. Ce ne serait pas pour que notre Père règle les problèmes de notre vie, puisqu'on les éviterait, par voie de conséquence. Et si tout le monde respectait ce que Dieu a établi, la prière avec le Père demeurerait, mais non plus limitée à « aide-nous, sauve-nous, secours-nous, sors-moi de là », parce qu'il n'y aurait plus de problèmes, de difficultés, parce qu'un jour ça va cesser. Mais la relation avec Dieu, elle va continuer. Combien il serait dommage que le changement nous déstabilise. Je ne sais plus m'adresser à toi autrement que pour te demander de me sortir de la ferme. Parce que j'ai limité ma relation à me retrouver dans des difficultés desquelles j'avais besoin d'être sorti. Mais si, en respectant ta volonté, j'arrive à sortir des difficultés, à éviter les difficultés, il restera celles que je vais subir de la part des autres. Il ne faut pas quand même faire de l'angélisme. On sera encore sur la terre pendant un certain temps. Mais nous n'aurons plus les conséquences des nôtres. Les nôtres, c'est fini. Quelque part, ça va être plus facile pour notre Dieu, notre Père, d'intervenir dans notre vie, parce qu'aux difficultés des autres, nous rajoutons les nôtres. Vous vous rendez compte que le Seigneur doit d'abord régler tout ça avant que nous soyons suffisamment libres et disponibles pour respirer d'abord et lui dire, ben, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie pour toi? Voilà. D'abord, il doit nous libérer de tous les écueils dans lesquels nous sommes mis les uns et les autres. 10 règles de vie. Et que la méconnaissance de la volonté de Dieu, ce sont des erreurs majeures dans notre vie. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'en commet plus. Récitez, rappelez-vous, relisez les 10 commandements et regardez dans la semaine si tous ont été respectés. Et on termine. Pardonne-nous. Je vais laisser de côté notre pain quotidien, puisqu'on n'est pas sur la notion de demande, mais de relation. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et entre Dieu et nous, il peut y avoir un état d'offense, dont nous ne sommes pas conscients. Chaque fois que nous avons commis une erreur, le cœur du Père a été profondément touché. Le Dieu juste a été saisi, comme on saisit la justice, et il va falloir qu'il y ait un jugement. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais au-delà du Dieu juste, c'est le Père. C'est le Père. Et là, il y a quelque chose de particulier. J'ouvre juste une parenthèse. 11 heures de vol, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez, vous dormez un peu, de temps en temps, il y a des films. J'en ai regardé un, c'était sur le juge, un fils avocat, qui va revoir son père, avec lequel la relation c'était très orageux, qui est juge. Sauf que le juge a commis une erreur et il est mis en accusation de meurtre. Et le fils avocat doit maintenant défendre le juge qui est son père. Je trouvais ça intéressant dans les deux niveaux de relation, parce qu'il y avait confrontation entre le juge et l'avocat, et il y avait heurte entre le père et le fils. Eh bien, parfois nous mettons Dieu en position de juge, il est notre Père. Et ce qui doit nous diriger, nous déterminer, c'est le Père. Quand nous avons offensé Dieu, c'est le Père qui a été touché. C'est le Père qui a souffert. Et si nous ne recalons pas cela dans notre vie, alors nous allons toujours nous limiter à dire, Seigneur, je te demande pardon. Et comme c'est écrit qu'en plus on a un avocat qui nous défend, on a la part belle et on s'en sort. Pardonne-nous nous amène à reconnaître nos fautes et nos transgressions. Et à ce niveau-là, il faut faire preuve d'individualisme. Ma relation avec mon père, elle est restrictive. C'est lui et moi. Les autres, je ne m'en occupe pas. Ils ont leur relation avec le père à rétablir. Tout ce qui les concerne, ça les concerne. Si le père doit me justifier, il me justifiera. Moi, je m'en exonère. Mais je veux ma relation avec le père. Et je ne veux pas qu'elle soit entamée, qu'elle soit hypothéquée. Et ce sont nos fautes qui l'entament et qui l'hypothèquent. Et à partir de là, dans notre prière, nous allons nous adresser à Dieu, mais pas à notre Père. Ça fait une différence. Quand on dit, Seigneur, je te demande pardon. Avec, papa, pardonne-moi. Vous avez beau mettre l'intonation plus ou moins bien, que je ne sais pas donner, mais la position n'est plus la même, hein. C'est le croyant qui s'adresse à Dieu pour qu'il soit pardonné, vaut mieux d'ailleurs. Et l'autre, c'est le fils qui a ressenti qu'il a offensé son père, il lui a fait mal. Et là, il vient dire, papa, je te demande pardon. Ça change tout. J'oserais dire désormais, quand vous aurez besoin de demander pardon pour vos fautes, changez de langage parce que ça va tout repositionner comme il faut du reste. Papa, pardonne-moi. Et quand on l'a fait une fois, en général, on n'y revient pas. Par contre, quand on a demandé, Seigneur, je te demande pardon, est-ce qu'on n'y est pas revenu? Parce qu'on n'était pas allé là où il fallait dans la relation. Nous avons de vraies offenses et parfois de vrais pardons à demander à notre papa. Et je termine. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pourquoi nous retrouvons-nous livrés au mal? Alors, il y a toutes les explications bibliques. Parce que le mal est là, il est rentré dans le monde. Je vous renvoie aux études bibliques que l'on a faites, et qui sont très bien faites du reste. Ben oui, il faut le dire. C'est pas besoin d'acheter des livres. Ici, l'annonce de l'évangile se fait comme il faut. Voilà, vous pouvez le dire autour de vous. Ah, merci. Donc, on laisse de côté toutes les développements doctrinaux sur la réalité du mal dans notre vie. Pourquoi et comment nous retrouvons-nous parfois livrés au mal? Parce qu'il y a en nous un manque de prière. Et peut-être que ça, on ne l'avait pas vu. Quand on a avec notre Père une vraie relation d'intimité, de proximité, il y a bien des choses qui ne vont pas arriver, qui ne vont plus se passer. Ça va réduire. Et quelque part, nous, on va se sentir mieux. Est-ce que notre manque de prière, de temps en temps, il faut bien faire le constat des choses, hein, est-ce que notre manque de prière, dans ce sens-là, ne serait pas à l'origine de bien des situations dans lesquelles nous nous retrouvons qui ne sont pas possibles? Parce qu'on n'a pas prié comme il fallait. On n'a pas prié quand il fallait. Et quand on n'a pas prié comme il fallait, et quand on n'a pas prié quand il fallait, du coup, la réponse, eh bien, on ne l'a pas mise en application comme il fallait. Voilà. Mais quand nous prions comme il le faut, et au moment où il le faut, la réponse de Dieu est suffisante. Et elle est telle que dans les difficultés, nous n'y allons pas. Parce que Dieu nous a parlé. Et quand il a répondu pour nous dire « ne va pas plus loin », « Seigneur, merci, papa, merci ». Et si au bout d'un moment, on en arrivait à une telle communion que, eh bien, du Notre Père, nous soyons plus intimes, alors à chacun d'établir son intimité avec Dieu. Mais je vous invite à reprendre Notre Père et à le rendre intime. Papa, toi qui es là-haut, qui vois tout, je veux que ma vie soit comme la tienne. Que ton nom soit sanctifié, je le porte. Que ce qui vient de toi, que tes valeurs s'établissent dans ce monde et dans ma vie. Que notre volonté, que ta volonté et la mienne deviennent une fusion, une communion. Merci pour tout ce que tu me donnes aujourd'hui, mais montre-moi comment en faire bénéficier les autres. Montre-moi comment en faire bénéficier les autres. Tu m'as pardonné mes offenses, je veux pardonner aux autres. Comme tu l'as fait, aide-moi afin d'être à ton image. La tentation, le mal, quelque part. Seigneur, merci parce que tu as tout livré en spectacle, tu as tout dévoilé. Désormais, tu me le dis que tu ne permettras pas que la tentation aille au-delà de mes forces et avec elle, ou l'épreuve, puisque c'est le même sens étymologique, tu mets une limite, tu mets un terme afin que ça n'aille pas au-delà, que je puisse la supporter. En même temps, tu prépares le moyen d'en sortir. Seigneur, papa, pardon, merci. Et dans cette relation que nous allons intimiser, si on peut faire ce néologisme, inventer le mot, rendre plus intime notre prière avec le Père. Vous allez voir que quand, au bout de quelques jours, vous allez relire notre Père, vous allez dire, eh bien, quand je me limitais à cela, je mettais de la distance encore. Maintenant, tu m'as permis de m'approcher de toi et je veux réduire la distance. Alors, lisez le Notre Père, rendez-le intime, transformez-le en intimité. Et de là, dans Matthieu 6, vous allez à Jean, chapitre 17. Et dans les moments les plus difficiles de votre vie, vous rendez intime cette relation entre Jésus et le Père, au moment où il établit la Sainte Cène, au moment où il va payer le prix, donner sa vie, c'est-à-dire au moment les plus difficiles de notre vie, que nous puissions rendre intimes les choses. Et le Seigneur sera glorifié, le Seigneur sera honoré. Et je crois que nous allons faire de vrais progrès.